Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Point de mire où nous allons aller à la rencontre d'une association spécialisée dans la défense des épargnants, la FEDER. Alors la FEDER, Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite, est la principale association française pour la défense des intérêts des épargnants. Elle compte plus d'un million d'adhérents. Je reçois Jean Berton, son président. Jean Berton, bonjour.
Bonjour, monsieur Chambon.
Merci d'avoir accepté de vous rejoindre sur notre antenne pour nous faire connaître un peu plus votre association. Vous êtes polytechnicien, vous êtes ancien président de l'Institut des actuaires, ancien directeur du Centre d'études actuariales et vice-président de la Fondation du risque. Autant dire que vous êtes un expert du sujet. Et on va peut-être commencer par rappeler la place de l'épargne retraite dans les placements financiers des Français. Mais avant, une présentation un peu plus complète que celle que je viens de faire de la FEDER elle-même.
Eh bien, merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion, en effet, de présenter la FEDER et son activité au service des épargnants et en particulier des assurés sur la vie. Alors, la FEDER est donc une fédération qui regroupe un ensemble d'associations de deux types principaux. Des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie. Il s'agit d'associations qui sont en contact avec l'assureur, qui contractent avec lui. Et les adhérents de ces associations bénéficient donc du contrat qui a été élaboré entre l'assureur et l'association. Et puis des associations qui regroupent des épargnants, des petits actionnaires, au titre desquels nous avons par exemple la Fédération nationale des cadres dirigeants. Nous avons l'Association de défense des actionnaires minoritaires de Colette-Neuville, l'Association pour la promotion de l'actionnariat individuel.
Ouais. Vous avez combien de structures adhérentes ?
Alors, nous avons 12 associations aujourd'hui qui participent à la FEDER, y compris un certain nombre de GERP, c'est-à-dire de groupements d'épargne de retraite populaire, qui sont des associations du type des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie, mais dédiées au PERP, le PERP étant le plan d'épargne retraite populaire, qui a été créé par la loi Fillon en 2003 et qui a été légèrement retouché lors de la dernière loi sur les retraites. Dans tous les cas, il s'agit, pour les PERP comme pour les contrats d'assurance vie de nos associations, de placements à long terme, en général, et d'après ce qu'on peut voir rétroactivement, principalement destinés à la préparation de la retraite.
Donc vous avez dû être très très actif au moment de la réforme des retraites, entre autres.
Oui, nous avons été actifs. Nos rôles est en fait d'essayer d'agir avant que
le sinistre ait eu lieu,
avant que ça fasse mal, c'est-à-dire d'essayer d'éviter qu'un certain nombre de décrets, de lois, de règles viennent s'imposer qui bouleverseraient ou modifieraient sensiblement un système qui aujourd'hui fonctionne bien. Je rappelle que l'assurance vie doit être aujourd'hui le placement préféré des Français, c'est du moins comme ça qu'on le caractérise.
Vous pouvez nous donner justement quelques chiffres pour éclairer.
L'épargne longue des ménages, c'est 2600 milliards d'euros. L'épargne longue, hein, l'épargne financière, on ne parle pas de l'épargne immobilière, bien sûr. Ouais. C'est 2600 milliards d'euros. Et bien, dans ces 2600 milliards d'euros, l'assurance vie, c'est 57%, c'est-à-dire
un peu plus
d'un milliard, 2400 milliards. Le patrimoine total des ménages lui-même étant de 10 800 milliards d'euros, d'après les estimations de la comptabilité nationale. Et dans ces 10 800 milliards, vous avez bien sûr 66% d'actifs non financiers, c'est-à-dire l'immobilier en part principalement. Et vous avez 15% au titre de l'assurance vie.
Oui, donc une part extrêmement importante des placements financiers des Français.
Très importante et très stable, puisqu'on considère qu'en général, un épargnant, un assuré sur la vie, va rester dans son contrat pendant plusieurs années, 10, 12, 15 ans, sans trop de difficultés, pour des raisons qui tiennent à la fois au fait qu'il s'agit pour lui non pas d'un placement à court terme, mais d'un placement à moyen-long terme, et donc la préparation à la retraite, et aussi pour des raisons qui tiennent à la fiscalité particulière de l'assurance vie, qui favorise la détention longue de ces contrats.
Mais alors, quelle est la place de l'assurance vie par rapport à l'autre grand type d'épargne, qui est celui des livrets A? Est-ce que livret A et assurance vie sont concurrents? Est-ce qu'ils sont complémentaires? On nous dit que le livret A était un grand succès de ces dernières années et je crois savoir que plus de 10 millions de nouveaux détenteurs se sont fait connaître depuis une dizaine d'années, portant à 60 millions le nombre de détenteurs de livret A. Alors, le livret A, bien sûr, il est plafonné. Quelles sont les relations avec l'assurance vie ? Ce sont des sources complémentaires ou concurrentes ?
Ça devrait être complémentaire. Parfois, c'est concurrent, malheureusement. En fait, dans le livret A, globalement, je crois que c'est les livrets A et analogue, c'est-à-dire développement durable, etc. Je crois que ça représente aux alentours de 300 milliards d'euros ou quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup moins important que les placements dans l'assurance vie. Ça devrait être complémentaire en sens que le livret A est un produit de placement à court terme, c'est-à-dire c'est un produit de placement dans lequel on met de l'argent en attente et on a une rémunération assez faible et une rémunération qui, comme il s'agit souvent de sommes qui sont peu importantes et qui étaient très souvent épargnées par des petits épargnants, il s'agit de sommes qui bénéficient donc de l'avantage particulier sur la fiscalité. L'assurance vie doit être considérée dans une optique beaucoup plus longue. Je le disais tout à l'heure, donc placement à moyen long terme, durée de détention de 10 à 15 ans en général, voire plus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre d'intermédiaires peuvent parfois suggérer des placements en assurance vie pour des durées beaucoup plus courtes, ce qui est pas sain, ce qui est très malsain en l'occurrence. C'est très malsain aussi bien au niveau de la compagnie d'assurance qui se retrouve avec des sommes qui sont très courtes, dont la durée de placement va être très courte et qui donc vont être beaucoup moins rémunératrices pour l'ensemble des assurés que les sommes qui sont placées à long terme. Et puis, c'est malsain parce que le concept même de l'assurance-vie du contrat et les éléments sur lesquels il repose, en particulier au niveau de la fiscalité, en font un produit à moyen-long terme.
Oui,
alors, les objectifs de placement sont là pour faire du moyen-long terme.
Alors, l'objectif principal du placement de l'assurance-vie, c'est quoi ? C'est aussi, alors c'est la rentabilité, bien évidemment, mais c'est aussi l'aspect succession et transmission.
Alors, c'est rentabilité-sécurité. Il faut bien mettre les deux éléments en parallèle, rentabilité et sécurité. Et un des supports essentiels de l'assurance vie, puisqu'il représente plus de 80% aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en général, dans le jargon, le fonds en euros.
C'est
le
ça.
Fonds en euros, c'est-à-dire en fait que c'est les sommes qui sont couvertes sous ce vocable sont donc déposées dans le contrat et elles sont investies dans le cadre de ce qu'on appelle l'actif général de la compagnie d'assurance. Elles sont donc investies et gérées par la compagnie d'assurance et elles donnent lieu à l'attribution d'un taux de rémunération qui varie année après année, qui est déterminé en fonction des plus-values, dividendes, intérêts perçus dans ce cadre-là par la compagnie d'assurance et qui sont obligatoirement reversés à au minimum 85% au profit de l'assuré. Il y a en plus un effet cliqué qui joue qui fait que les sommes qui sont inscrites à votre compte en début d'année, sont ensuite garanties à ce niveau-là jusqu'à la fin du contrat.
C'est peut-être une question piège. Est-ce qu'on a une idée du portefeuille moyen des détenteurs d'assurance vie ? C'est quoi ? Par exemple, si on dit que le détenteur des livrets A, c'est de l'ordre de 10 000 euros, le portefeuille moyen, il doit être sensiblement plus élevé.
Mais qu'on peut faire le calcul assez facilement. Il y a 1 400 milliards, si c'est moyen, si on peut faire le calcul. Le médian, je ne saurais pas, mais moyen, c'est facile. 1 400 milliards, mettons, d'encours pour, je crois, une quinzaine de millions de contrats. Donc, on est aux alentours
de
100 000 euros.
À peu près 100 000 euros. Donc, c'est sans commune mesure avec les autres.
Donc, c'est plus important. Les
placements d'attente. Donc, rentabilité, sécurité. Et donc, l'autre aspect, c'est aussi la transmission.
Oui, bien sûr. La transmission, mais la transmission parce
d'une certaine façon,
que c'était à l'origine un des grands avantages qui était offert par l'assurance vie. C'était la possibilité, et ça reste la possibilité, de prévoir le bénéficiaire de son choix, bien sûr. Ça a été malheureusement au fil des temps raboté, comme beaucoup d'avantages fiscaux, puisque maintenant il y a des règles plus strictes qui ne permettent pas de transmettre en franchise totale d'impôt sur les successions son patrimoine, sauf dans des conditions très particulières, lorsque le patrimoine est justement inférieur à 150 000 euros.
Et comme pour les règles générales de transmission.
Et puis je dirais qu'avec la loi TEPA de 2007, le fait que l'on supprime quasiment totalement les droits de succession en ligne directe et entre époux, pour certains montants, a enlevé un intérêt à l'assurance vie. Mais l'intérêt de l'assurance vie se maintient quand même dès lors que l'on veut pouvoir avantager ses petits-enfants ou d'autres personnes de son entourage qui ne sont pas nécessairement liées à la famille.
Tout à fait, absolument. Voilà donc pour le rappel des fondamentaux, on va dire, de ce placement préféré des Français. Alors voilà que nous rentrons dans un contexte de réforme d'un certain nombre de choses, et notamment de réforme de la fiscalité. Alors, vous, association, vous voyez arriver cette échéance avec un certain nombre de craintes. Alors, quelles sont ces craintes, Jean Murton ?
Nous sommes inquiets d'un certain nombre de projets que nous avons entendus cités par les journalistes ou proposés par certains hommes politiques. En effet, nous ne cachons pas que, certes, la fiscalité du patrimoine telle qu'elle est conçue aujourd'hui devrait nécessiter une profonde réforme. Mais nous craignons que la réforme d'une partie de cette fiscalité simplement, c'est-à-dire ce qui concerne l'ISF, ne soit finalement, on va dire, qu'un cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire ne soit que trop partielle et risque d'être mise en cause ultérieurement. J'ai donc eu l'occasion, moi-même, lors d'une réunion au ministère des Finances, un colloque dernier,
ah oui, avec tous les ministres,
avec
voilà,
les ministres, de m'exprimer et de dire que ce qui nous paraissait essentiel, c'était que dans toute bonne fiscalité, il y a une stabilité de la fiscalité, il y a une pérennité de la fiscalité. Et on a eu beaucoup d'incantations dans ce domaine-là au cours de cette réunion, mais on n'a eu aucune preuve que cette pérennité serait assurée par la réforme qui va être mise en place. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que nos dirigeants et les parlementaires de la majorité aujourd'hui soient très vigilants sur ce sujet-là et essayent autant que faire se peut, peut-être pas d'obtenir une réforme bipartisane, parce que ce n'est pas vraiment dans notre logiciel de fonctionnement aujourd'hui, mais en tout cas une certaine neutralité de l'autre bord de l'échiquier politique, de façon à ce que ça ne soit pas remis en cause dans un an, parce que ça serait dramatique. Bouleverser le système actuel pour l'annuler et revenir en arrière un an plus tard, comme le disait un intervenant, en France, ce qu'on sait faire, c'est créer des impôts nouveaux. Mais on ne sait pas supprimer les impôts anciens.
Oui, c'est ça.
Alors ici, on supprimerait l'impôt ancien, on le remplacerait par un impôt nouveau. Eh bien moi, je vous fiche mon billet que si jamais il y a un changement de majorité et qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui a été fait, à ce moment-là, on recréera l'impôt ancien qu'on avait annulé, mais on n'annulera pas l'impôt nouveau. Donc on aura une double imposition, ouais, et ça c'est dramatique. Alors nous, ce que nous pensons, c'est que l'impôt, un bon impôt, si vous voulez, doit être donc pérenne. Ça c'est un premier point. Équitable, donc fonction de la capacité contributive de chacun, ça c'est ce qu'on trouve y compris dans la Constitution, ou même au point de départ dans notre Constitution. La réforme ne doit pas être imprévisible, ça c'est pour l'aspect pérenne. Elle ne doit pas être illisible, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'impôt soit simple et compréhensible.
Compris.
Et bien sûr, elle ne doit pas être confiscatoire. Ça, c'est les grands principes qu'on voudrait avancer.
Et là, on s'approche des zones rouges, la confiscation ou pas ?
Alors, on pourrait s'approcher des zones rouges, on pourrait s'approcher surtout de zones qui ne nous plaisent pas du tout, qui consisteraient à taxer des revenus qui n'ont pas été réalisés.
Alors ça, c'est le fameux risque sur les plus-values latentes.
C'est les plus-values latentes. La taxation des plus-values latentes nous paraît, moi, me paraît à titre personnel, une horreur fiscale. Et je souhaiterais que les fiscalistes, ceux qui sont au fait des principes de la fiscalité, parce que la fiscalité, ça repose sur un certain nombre de principes. Alors j'en ai donné quelques-uns, mais il y a toute une série de principes que tout fiscaliste digne de ce nom est capable de mettre en avant et qui justifie la fiscalité. Que justement, ces fiscalistes défendent ces principes et disent bien qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal à taxer un revenu qui n'a pas été perçu. D'autant que la fiscalité potentielle, elle est virtuelle. Et alors là, je vais rejoindre un autre sujet. Nous nous battons, et le gouvernement lui-même est, je dirais, inquiet d'un certain nombre de règles comptables que l'on est en train d'essayer de nous imposer au niveau international et au niveau européen et qui sont basées sur ce qu'on appelle la fair value ou la market value, c'est-à-dire la juste valeur ou la valeur de marché. On dit non, c'est dangereux, il ne faut pas aller trop loin dans ce domaine-là, et en particulier dans le domaine réglementaire concernant tout ce qui concerne la solvabilité des entreprises bancaires ou d'assurance. Il faut veiller à ne pas être l'otage des marchés et l'otage de la cotation sur un marché. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Dans le cadre de la taxation à la plus-value potentielle, eh bien exactement la même chose. C'est-à-dire d'évaluer à la valeur de marché et de taxer sur cette valeur de marché, ce qui est encore pire. C'est-à-dire évaluer encore, c'est une chose, mais taxer, c'est encore pire. Certes, c'était le cas déjà dans l'ISF, mais c'est justement ce qui était mauvais dans l'ISF. Et donc, le remettre en route à l'occasion de la taxation des plus-values potentielles serait, à mon avis, dramatique. Et en plus, il suffit de faire quelques calculs rapides. Dès que vous auriez des plus-values d'un certain montant, c'est-à-dire que vous avez la chance que votre investissement boursier, par exemple, a été suffisamment performant, vous allez vous retrouver avec des taux d'imposition qui seront bien plus élevés que les taux précédents de l'ISF que l'on va supprimer.
Donc ça va absolument à l'inverse, des objectifs.
Enfin, absolument.
On peut aussi imaginer que cette piste soit ensuite abandonnée, mais je ne sais pas si vous y croyez.
Donc là, on parlait d'un leurre, mais je me garderais bien de parler d'un leurre. Je pense que c'est en effet deux pistes qui sont étudiées par le gouvernement. Et je comprends très bien du reste qu'il cherche à les étudier, mais Le fait de les mettre à l'étude ne veut pas dire en effet qu'il les suivra systématiquement et qu'il ira jusqu'au bout et proposera deux réformes complètes, l'une basée sur l'IRF et l'autre basée sur l'aménagement de l'ISF. Je pense que dans les discussions, on essaiera et on arrivera à les convaincre que la première comporte beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages et que c'est vers la seconde qu'il faut essayer d'aller si l'on veut réformer l'ISF. D'autres disent aussi que finalement, le mieux serait de ne toucher à rien aujourd'hui et d'attendre simplement...
Des nouvelles échéances.
Et la grande discussion sur la fiscalité, la refonte de l'ensemble du système entre fiscalité, cotisations sociales, prélèvements sociaux, etc., qui est à faire si on veut se remettre au niveau des autres pays européens, en particulier de nos compétiteurs comme l'Allemagne.
Voilà, donc vous venez déjà d'aborder vos propositions, puisque vous nous dites qu'il est urgent d'attendre. En tout cas, le bon sens nous y invite, de façon à ce que, effectivement, cette fiscalité ne perde pas ses vertus avec le changement de majorité, si tant est qu'un jour il devrait y avoir un changement de majorité. Mais on va dire que c'est un risque objectif. Vous qui êtes un spécialiste du risque, vous savez...
C'est une donnée non négligeable dans laquelle il faut savoir se placer, bien évidemment.
Autre point de proposition sur ce domaine, et sur en particulier l'épargne retraite, est-ce qu'il y a des choses particulièrement notoires sur ce plan, ou est-ce que vous avez à peu près fait le tour sur le sujet?
Alors, je pense que sur l'épargne retraite, là aussi, mais c'est un grand débat. Le gouvernement a accouché d'une réforme qui était indispensable, qu'il fallait faire vite, et elle a été bien faite en ce qui concerne les régimes de retraite obligatoires et par répartition. En revanche, en ce qui concerne l'épargne retraite, c'est-à-dire la partie supplémentaire, la partie capitalisation.
Complémentaire, supplémentaire,
il y a une question de sémantique là-dessus. Il y a, je crois, à revoir l'ensemble du dispositif. Mais il faut à ce moment-là intégrer l'épargne salariale. Et il faut que l'ensemble de ces dispositifs soit remis à plat pour qu'il n'y ait pas de compétition stérile entre différents types d'épargne salariale ou d'épargne retraite, pour qu'il n'y ait pas de compétition stérile entre les canaux de distribution bancaire et d'assurance ou simplement la gestion financière d'un côté et les assurances de l'autre, et qu'on essaye de mettre en place des produits simples, compréhensibles et réellement adaptés aux besoins des clients. Parce que c'est ça ce qui compte le plus aujourd'hui, sachant que tous les intermédiaires y trouveront bien évidemment leur compte. Mais je crois qu'il faut maintenant faire passer en premier réellement l'intérêt du client, c'est-à-dire du futur retraité. Et l'intérêt du futur retraité, il passe par la recherche d'une forme de sécurité, parce qu'il ne faut pas que les placements qui sont faits en préparation et en vue de sa retraite soit sujet ou soumis à des risques trop élevés et trop importants. Donc il faut une forme de sécurisation. Il faut aussi bien concevoir que quand on prend sa retraite, ce qui compte, c'est la mise à disposition de ce qu'on appelle jusqu'à ces derniers temps la rente viagère et que nous voudrions qu'on appelle maintenant le revenu à vie. Revenu à vie parce que c'est un revenu qui doit être versé et à vie, toute la vie durant. Et que ça, c'est la seule façon de faire face à ce qui est un risque et une chance, et dont on a déjà parlé, dont les hommes politiques ont souvent parlé, qui est cette augmentation de la longévité. C'est une chance de vivre plus longtemps. Oui. La chance de vivre plus longtemps en bonne santé, du reste, puisque c'est ce qu'on constate, c'est que dans le cadre de l'augmentation de la longévité, on augmente la durée de vie en bonne santé. Mais c'est un risque, parce que si vous avez un capital et que vous commencez à le consommer
trop tôt,
au fur et à mesure des années trop tôt, vous pourrez terminer... Vous n'avez plus de capital alors que vous avez encore plusieurs années à vivre. Donc là, il y a un risque viager, et ce risque viager, il est en général très bien géré et pris en compte par l'assureur. Donc il faut tenir compte de ces ensembles-là et proposer des systèmes qui répondent à la couverture de ces risques. Voilà. Mais là, ensuite, je crois qu'à la base de certains des produits existants aujourd'hui, on peut développer des produits adaptés.
Avant de conclure, peut-être revenons légèrement en arrière pour parler de la réglementation, vous avez fait allusion un instant, sur cette fameuse règle européenne de Solvency II. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et par rapport à cette réglementation européenne, quelles sont les conséquences ou les risques que vous voyez apparaître, à la fois, bien sûr, pour les assureurs, que c'est un deuxième sujet, mais aussi pour les épargnants, s'il y en a un?
Alors, Solvency II est un système qui a été voté par le Parlement européen l'an dernier, malgré l'opposition d'un certain nombre de ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes, et en particulier l'opposition de la FEDER et des épargnants, mais nous n'avions pas malheureusement une voix suffisamment puissante pour le faire entendre. Et puis je dirais que les représentants français étaient très minoritaires sur ce sujet-là au Parlement européen, et donc on n'avait aucune chance de faire passer ce qui aurait été, disons, une remise à plat là aussi de la réforme pour obtenir quelque chose de mieux adapté aux véritables produits de l'assurance-vie. En particulier, dans Solvabilité 2, il y a un système qui est basé en gros sur une analyse des risques, qui est très intelligent et qui est sûrement très utile, et qui conduit donc à mesurer les risques à la fois au niveau de l'actif des compagnies d'assurance et au niveau de leurs engagements. Et au niveau de l'actif, donc on identifie le risque en particulier des actions, et le risque des actions qui est assez important bien évidemment, puisqu'on sait qu'il y a un degré de fluctuation des marchés d'actions qui est très élevé. Ce risque des actions donc conduit à demander que l'assureur, pour être en mesure de faire face à des moins-values potentielles importantes, donc dispose d'un capital suffisant. Alors ceci nous paraît en soi, c'est tout à fait sain, bien évidemment, le principe ne peut pas être mis en cause, sauf que on mesure le risque en question sur une période d'une année, et tout le monde sait qu'une compagnie d'assurance, c'est par définition même un investisseur à long terme, et par définition une période de vie qui se chiffre en dizaines et dizaines et dizaines d'années. D'autre part, les engagements de la compagnie d'assurance, j'en parlais tout à l'heure sur l'assurance vie, sont des engagements dont on s'aperçoit qu'en moyenne, ils sont à 10, 15 ans sans difficulté. Donc, tout basé sur un risque à un an nous paraît un petit peu dangereux et enfin nous paraît justement beaucoup trop contraignant. Et ça entraîne donc des besoins en capitaux très importants. Ces besoins en capitaux très importants qui vont être mis, disons, qui vont être imposés aux compagnies d'assurance dans les années à venir, puisqu'on a obtenu quand même un délai, heureusement, de mise en place de tout ceci. Donc, ces besoins en capitaux font que l'ensemble des compagnies d'assurance nous informe tout le monde, la presse, les pouvoirs publics et les épargnants, bien sûr, qu'elles vont réduire très fortement leur investissement en actions. Alors, les conséquences que ça a, c'est quoi ? Aujourd'hui, jusqu'à ces derniers temps, les investissements des compagnies d'assurance, en particulier ce qu'on appelle l'actif général, donc je parlais du fameux fonds en euros, ces investissements en actions représentaient grosso modo dans les 10%, 10-12%, peut-être un petit peu moins, des actifs généraux. Bien. On nous annonce des taux qui vont baisser à 5-3%, ça dépend des compagnies d'assurance. C'est très bas.
C'est quand même énorme parce que les compagnies en tenaient. Ouais.
On constate l'an dernier au niveau des taux de rémunération qui ont été proposés, qui ont été fournis par les compagnies d'assurance pour les fonds en euros, qu'un certain nombre de compagnies ont été particulièrement performantes. Et alors que nous sommes dans une période de baisse des taux que constatent les assurés, mais il faut voir dans le long terme quand on se passe. Donc on est dans une période de baisse des taux, puis il y aura des remontées à venir plus tard, etc. Alors que l'on est dans cette période de baisse des taux, nous avons un certain nombre de compagnies qui ont été en mesure d'offrir des taux de rémunération plus élevés. Plus élevés que l'an dernier, par exemple, ou nettement plus élevés que la moyenne. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient investi une partie des fonds en actions et parce que les marchés d'actions ont été particulièrement bons l'an dernier. Donc, nous nous trouvons dans une situation où on s'aperçoit que par la réglementation, on va se priver de cette possibilité-là. Autre chose, tout le monde parle aujourd'hui du regain d'inflation. Voilà. Tout le monde sait donc que...
C'était la deuxième question que je vais vous poser, donc vous avez anticipé.
J'anticipe, tout le monde s'inquiète du rebond possible de l'inflation. Et en effet, avec les hausses des matières premières, ça risque de se transmettre petit à petit à des hausses salariales et entraîner peut-être ce phénomène inflationniste qu'on avait réussi à juguler depuis plusieurs décennies. Bon, les actions sont un des bons moyens de lutter de se prémunir contre l'inflation, puisque créatrices de richesses réelles, les entreprises, normalement, suivent, je dirais, leurs résultats suivent largement l'inflation. Donc là aussi, on se prive de cet avantage-là. Donc ça, c'est très négatif pour l'épargne. D'autre part, dernier sujet concernant les actions, les pouvoirs publics, l'industrie, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances, suite aux états généraux de l'industrie voulus par le président de la République, on a entendu le président du reste en parler lui-même dans un certain nombre de forums, voudrait que les assureurs renforcent, que les assurés participent davantage au financement de l'économie à travers l'investissement en actions, en particulier l'action de PME. Tout ceci est totalement contradictoire.
Voilà, vous me l'enlevez de la bouche.
J'ajoute qu'avec les projets de taxation sur les plus-values potentielles, ça l'est aussi, du reste, au passage. Donc, comment faire ? Alors, nous proposons qu'on réfléchisse à deux pistes. D'abord, il y a une piste, les contrats d'assurance sont basés sur des fonds en euros, ils sont basés sur des fonds en unités de compte. Déjà, je pense qu'on pourrait conseiller et on pourrait essayer de favoriser dans les fonds en unités de compte ce qu'on appelle des fonds à rotation lente. C'est une notion qui existait il y a 20 ou 30 ans dans le cadre des fonds de trésorerie, mais ça pourrait être mis au goût du jour dans le cadre des fonds en action. C'est des fonds dans lesquels les gérants s'engageraient à ne pas faire tourner trop rapidement leur portefeuille, de façon à maintenir l'investissement à long terme dans les entreprises. On sait que si les entreprises sont bien choisies, si les gens font bien leur travail d'analyse, c'est vraisemblablement ce qui est quand même un des investissements les plus rentables et les moins risqués qui puissent exister sur le très long terme. J'en veux pour preuve Warren Buffett, dont tout le monde connaît la performance extraordinaire. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour favoriser l'investissement en PME, je crois qu'il ne faut pas demander aux particuliers d'investir directement dans les PME. De même qu'aujourd'hui, je veux dire, le réinciter à investir dans les actions alors qu'il a des inquiétudes fortes, ça serait retrouver les erreurs qu'on a faites lors de la loi Fourgous, lors des contrats NSK et DSK. Bon, je crois qu'il faut demander aux assureurs de jouer leur rôle d'intermédiaire. C'est à eux de gérer dans ces conditions-là. C'est eux qui en ont les moyens, qui en ont les capacités. Et faisons en sorte, par l'intermédiaire d'incitations fiscales, peut-être au niveau des assureurs, que ceux-ci soient incités à investir dans, à travers leurs fonds en euros, dans ces entreprises et dans les PME, quitte à leur donner une contrepartie, un avantage à déterminer, sous forme d'une réduction de taxation ou je ne sais quoi, qui viendrait compenser le fait que, à cause de solvabilité 2, on va leur demander de mettre plus de capital à disposition. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'était les convictions et les arguments de Jean Berton, président de la FEDER, qui vient de nous démontrer que l'assurance vie, malgré les menaces qui pèsent sur elle à travers la réforme de la fiscalité, a de très beaux jours devant elle. Elle a des atouts et la FEDER, on peut en être convaincu, est là pour les faire valoir au mieux.
En tout cas, si on nous écoute.
Justement, peut-être ce dernier mot, est-ce que vous êtes représenté au Conseil économique et social ?
Non, nous ne sommes pas représentés au Conseil économique et social, bien que nous ayons souhaité l'être et nous en avions discuté avec les pouvoirs publics. Mais en revanche, nous sommes présents au Comité consultatif des services financiers, ce qui est un organisme qui est présidé par Emmanuel Constant et qui est très proche du ministère de l'économie et des finances et sur lequel s'appuie beaucoup Mme Lagarde lorsqu'elle veut faire des réformes. Et puis nous sommes représentés à la commission épargnants de l'AMF où nous défendons le point de vue des épargnants et à la commission des pratiques commerciales de l'autorité de contrôle prudentiel qui s'occupe des banques et des assurances où là aussi nous représentons et nous défendons les épargnants et les assurés.
Voilà, la FEDER, Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite, et son président Jean Berton. Merci à vous, Jean Berton. À très bientôt.
Merci, Monsieur Chambon.